Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur le tandem Louis XIII-Richelieu, ou plus exactement sur leur façon de gouverner. En effet, notre invité Jean Castarède souligne dans son ouvrage Louis XIII et Richelieu, paru aux éditions France Empire, qu'ils ont en fait fixé un système de gouvernance original fondé sur le couple monarque-premier ministre. Ce système avait été inauguré par Henri IV et Sully, il atteint son apogée avec Louis XIII et Richelieu et sera poursuivi entre Louis XIV et Mazarin. Mais se pencher sur le couple Louis XIII et Richelieu, c'est aussi redécouvrir leur personnalité et mettre à mal certaines idées reçues qui s'y rattachent. Jean Castarède, bonjour.
Bonjour.
Permettez-moi de vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes ancien haut fonctionnaire, essayiste, économiste et historien. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont une dizaine sur le XVIIe siècle, période qui vous tient particulièrement à cœur. Mais revenons donc à Louis XIII et Richelieu. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur ce tandem ?
Exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que je crois que la France a inventé ce système de gouvernance, que, tout à fait entre parenthèses, les pays émergents seraient bien placés pour appliquer, parce qu'on n'applique pas la démocratie comme cela, il faut une certaine accoutumance et il faut une certaine légitimité d'un homme qui représente un peu le droit divin, et puis un technicien qu'on appelle maintenant des technocrates. Et c'est un peu par hasard que Henri IV l'a inauguré avec Sully. Et puis ensuite, c'est surtout Louis XIII, parce que Louis XIII n'avait pas tout à fait l'intelligence d'un roi. Et heureusement, il a eu Richelieu qui lui était véritablement un génie, un homme parfait. Et ce couple qui a eu du mal d'ailleurs à se trouver, puisqu'ils ont failli ne jamais vivre ensemble, si j'ose dire, a été tout à fait exemplaire.
Alors pour bien comprendre le rôle de Richelieu auprès de Louis XIII, il faut bien entendu évoquer le règne de Louis XIII, à commencer par les circonstances de son avènement et la régence de sa mère, Marie de Médicis. Dans quel état se trouve la France en 1610 après l'assassinat d'Henri IV ?
Alors la France se trouve dans un état absolument exceptionnel. Je crois qu'il y a eu à peine deux ou trois autres occasions où la France s'est trouvée aussi riche. Difficile de faire des comparaisons, mais je pense qu'elle n'a jamais été aussi riche qu'à cette époque-là. Elle venait de très loin, il faut dire que les guerres des religions, le pays était éclaté en plusieurs sectes et par conséquent, il fallait toute la force de Sully et l'intelligence d'Henri IV pour arriver à ce chef-d'œuvre. Donc 1610, c'est absolument exceptionnel. La France est très riche et Henri IV en plus a des grands projets devant lui. Il veut faire l'Europe avec 15 pays. Il veut faire les États-Unis, ce qu'on a souvent oublié parce que c'est l'époque où on a commencé à occuper le Canada. Mais Henri IV était un visionnaire, il a pensé que le Canada c'était un pays trop froid et qu'il fallait descendre jusqu'au sud de ce qui n'était pas à ce moment-là Washington. Et donc il rêvait d'un très grand pays qui aurait parlé français, ça aurait changé la face du monde. Donc il avait des projets tout à fait grandioses. Malheureusement, il était assassiné.
Il a été assassiné et il s'agit en quelque sorte d'un drame pour la France.
Absolument. On aura du mal sans doute à s'en remettre et je crois que les deux siècles ont suivi, malgré la réussite des Bourbons, donc de ses enfants et petits-enfants, ça a été une occasion perdue pour la France.
Alors la régence est assumée par Marie de Médicis. Continue-t-elle l'œuvre de son époux ?
Non, pas du tout. D'abord, ce n'est pas une femme très intelligente. Ensuite, elle est entourée d'Italiens et d'un certain Concini et de son épouse. Heureusement, son fils Louis XIII, ce qui n'est quand même pas négligeable, fera assassiner Concini en 1617. On n'y allait pas de main morte à cette époque-là. Il n'y avait pas des petits complots, il y avait vraiment des grands complots. Mais surtout, elle ne parle pas très bien français, elle n'a aucune vision politique. Et elle fait tout le contraire de ce qu'avait pensé Henri IV. Elle va marier ses enfants avec les Espagnols, alors que lui voulait les marier avec les Anglais. Il y en aura quand même une qui épousera un Anglais. Mais il voulait faire l'Europe avec ses enfants. Il pensait que l'Espagne était un pays qui était fini et que ce n'était pas la peine de faire le double mariage qu'elle imposera. Ensuite, elle va dépenser beaucoup d'argent. C'est surtout Concini qui va dilapider le trésor que nous ne retrouverons plus jamais après.
face au désordre, parce que du coup tout cela engendre un certain désordre du côté des princes qui essaient de...
Les princes, ils sont toujours en embuscade. D'ailleurs, ils vont rester en embuscade pendant 60 ans, jusqu'à la Fronde. D'abord, parmi les princes, il y en a certains qui en veulent énormément à Henri IV. C'est ses cousins les plus proches, les Condés notamment, qui auraient pu régner, parce que si Henri IV n'avait pas pu accéder au trône, c'était les Condés qui venaient en première ligne. Donc déjà, avec les Condés, ce n'est pas très très commode. Ensuite, il va avoir des enfants bâtards qui vont se révolter, qui sont les fils qu'il a eus avec Gabriel d'Estrées, qui sont les Vendômes. Et puis, il y a toujours l'éternelle revanche que veulent prendre les protestants après l'édit de Nantes.
Alors, en ces débuts de règne assez troubles, finalement, les États généraux vont être convoqués en 1614. Et on voit déjà, là, le futur Richelieu apparaître.
Oui, ça, c'est une bonne idée politique. Malheureusement, elle n'avait pas suffisamment d'ascendant pour contrôler ces États généraux, mais c'était sûrement une très bonne idée.
Alors, de Marie de Médicis. Hein,
oui. Oui, c'est une idée qui lui a été soufflée. Alors, c'est vrai que ça a été miraculeux pour Richelieu, puisque vous vous souvenez qu'à cette époque, il y avait trois États. Il y avait la noblesse, le clergé et le tiers État, c'est-à-dire ceux qui n'avaient aucun titre, mais qui représentaient le pays profond. Et à la tête du clergé, il y a un jeune évêque qui apparaît et qui fait le discours inaugural au nom du clergé et qui s'appelle Richelieu. Enfin, il était donc, se fait connaître à cette époque, il fait le discours inaugural et comme il est le plus intelligent de tout le monde, il n'a pas de mal à s'imposer. Et c'est à ce moment-là que c'est véritablement la méritocratie, la première fois que la méritocratie apparaît, puisque c'est son intelligence qui l'a fait s'imposer.
Alors, ce n'est pas pour autant qu'il arrive vite au sommet de l'État, puisque le processus est long. Quelles sont les premières responsabilités, finalement, de Richelieu avant d'être le conseiller du roi ?
Richelieu, comme vous venez de le dire très justement, il a fait le mauvais choix. Parce que assez vite, Marie de Médicis le repère, le prend un peu comme confident. Elle veut qu'il la protège des menées de son fils, notamment contre Concini. Et donc, il est un peu le confident. D'ailleurs, le jour où Marie de Médicis sera disqualifiée, c'est-à-dire où son fils, ayant fait assassiner Concini, l'expédie à Blois, il l'expédie avec Richelieu, qui a déjà joué un petit rôle comme, disons, ministre de quelque chose, mais il part avec Marie de Médicis et à ce moment-là, il croit sa carrière finie.
Et finalement, c'est au contraire. Là, le roi lui confie la mission de
réconcilier mère et fils. De médiation. Ça se passe en deux temps, ce qui est également très très mystérieux. Après l'avoir accompagné à Blois, le roi est très mécontent qu'il ait suivi sa mère et il l'exile en Avignon. Donc il part en Avignon, il reçoit un ordre, il exécute, il est très très docile. Et puis d'Avignon, il le fait revenir auprès de sa mère en ayant à ce moment-là, ce qui prouve que Louis XIII a aussi un sens politique, en lui confiant comme mission de ramener sa mère. Et donc, il revient auprès de Marie de Médicis, et à ce moment-là, il trahit complètement Marie de Médicis. Parce que la mère et le fils sont en dispute, et même en guerre, très très violente, puisqu'ils font tuer des gens pour eux. Et Richelieu apparaît comme l'homme qui va être le médiateur, qui va trouver les solutions de conciliation après les guerres, après les batailles, et réconcilier la mère et le fils.
D'ailleurs, plus tard dans ses mémoires, Richelieu dira qu'il s'était rapproché des Concini et de Marie de Médicis que pour mieux les neutraliser.
Oui, alors ça, moi j'en crois pas un mot. Non, parce qu'il réécrit l'histoire comme il a envie de la réécrire. Mais à ce moment-là, Louis XIII a un autre homme qui le fascine et qui est le duc de Luynes. Et Richelieu n'aurait sans doute pas existé si le duc de Luynes avait survécu. Malheureusement, il va être emporté par une maladie, une fièvre, au cours d'une bataille. Et par conséquent, à ce moment-là, Richelieu retrouve sa chance. Mais au moment où il revient en grâce, il y a quand même Luynes qui lui barre la route. Donc, ce n'est pas aussi évident que ça pour Richelieu.
Alors, Louis XIII a souvent l'image d'un roi renfermé et dominé par son futur Premier ministre. Vous le présentez d'une autre manière. Et vous insistez sur le fait qu'il avait en fait une idée assez prononcée du pouvoir. Vous écrivez qu'un roi qui, à peine à 20 ans, et qui n'hésite pas à prendre les armes pour attaquer sa mère, défendu par un ecclésiastique qu'il a lui-même placé auprès d'elle pour obtenir plus facilement un compromis de réconciliation, on peut appeler ça à la fois de l'habileté, du courage, de la tactique, mais aussi une vision du métier de chef d'État. Alors, quelle est sa vision du métier de chef d'État ?
Oui, je crois qu'il a quelque chose d'assez inné en lui, ce qu'on appelle un peu l'état de grâce. Il a compris bien des choses sans avoir une intelligence livresque ou une intelligence absolue. Il a du sens politique et il l'a montré à plusieurs reprises. Il y a d'autres occasions de sa vie où il va trancher, on va en voir au moment de la journée des dupes. C'est sûrement un homme qui a une certaine étincelle. Il comprend assez vite ce qu'il faut faire. Alors, il est maladroit parce qu'il parle mal, il est bègue, il est très timide, il est très complexé. Il n'a jamais été aimé par sa mère, enfin, il a tout contre lui, mais de temps en temps, il a une fulgurance et il prend une bonne décision.
Alors la bonne décision, il en prendra une en 1624, lorsqu'il nommera Richelieu en quelque sorte Premier ministre. Mais avant de nous intéresser donc au ministère Richelieu, je vous propose de marquer une courte pause.
Goûtez l'histoire de la ratatouille, ce ragoût de légumes qui embaume le midi. L'origine du mot est déjà tout un plat. Chacun de ses composants et condiments, aubergines, tomates, courgettes, poivrons, oignons et autres, ont une origine amusante et intéressante à découvrir, où l'histoire, la grande, n'est jamais très éloignée. La ratatouille ou les avatars de la mondialisation des légumes, une émission de notre chroniqueur gastronomique Jean Vito, à télécharger sur le site de Canal Académie.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, nous sommes toujours en compagnie de Jean Castarède, qui vient de publier aux éditions France Empire, Louis XIII et Richelieu. Entrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet avec le ministère donc Richelieu. En 1624, Richelieu devient Premier ministre. Pouvez-vous nous dresser un rapide portrait du cardinal ? Quelles sont ses principales qualités et ses principaux défauts ?
Sa principale qualité, c'est une intelligence fulgurante. Et sûrement une très grande capacité à expliquer une situation, à l'analyser. C'est un grand écrivain. Très souvent, d'ailleurs, c'est une des premières fois où on trouve ça dans l'histoire de France, où il sait décortiquer une situation, l'analyser, peser le pour et le contre. Enfin, je dirais même que ces analyses devraient être un modèle pour les futurs hauts fonctionnaires. Enfin, on devrait analyser ces textes à l'ENA, parce que c'est toujours lumineux, c'est très bien fait, il y a le pour et le contre, il y a les deux parties, les deux sous-parties. Et il fait exprès de temps en temps de ne pas trancher pour donner à Louis XIII le sentiment que c'est lui qui va prendre la décision. En réalité, il présente les choses tellement habilement qu'il oblige quasiment le roi à aller dans le sens qu'il souhaite. Donc moi je dirais que c'est une intelligence lumineuse. Deuxièmement, c'est un homme honnête, très rigoureux. Vous savez qu'il est encadré de Sully qui s'est enrichi et de Colbert qui s'est enrichi, sans parler de Mazarin qui s'est également enrichi. Richelieu, en dehors de toutes ces bibliothèques qu'il a constituées, le palais royal qui est en face, qu'il a fait construire, n'est pas un monsieur qui a enrichi sa famille et s'est enrichi lui-même, encore moins lui-même, puisque de toute façon il n'a pas eu de descendants, donc on ne voit pas très bien l'intérêt qu'il aurait eu. Voilà, moi, c'est les deux principales qualités que je vois, honnêteté et intelligence.
Et pourtant, c'est un personnage souvent malmené par l'histoire.
Oui, parce que il est austère, il n'a pas le sens de la répartie, ni de l'humour. Enfin, c'est le contraire d'un Gascon, donc ce n'est pas un monsieur qui a le sens de la formule. Et puis, en plus, je pense que c'était quelqu'un de malade. Il a toujours beaucoup souffert dans sa vie. Et quand on est malade, on n'a pas de rayonnement autour de soi.
Alors, quels sont les axes de la politique qu'il va mettre en vigueur ?
Paradoxalement, il va suivre intégralement la politique d'Henri IV. C'est-à-dire qu'à cette époque, l'ennemi numéro un, c'était l'Espagne, qui avait pris la France en tenaille, avec d'un côté les Habsbourg qui régnaient sur une partie de l'Empire qu'on a appelé après l'Austro-Hongrois, mais enfin cette grande région de l'Allemagne centrale, et puis de l'autre côté l'Espagne. Mais en même temps, et puis avec l'Italie, le nord de l'Italie, bien sûr. Alors, il veut réduire ce bloc à zéro, notamment sur les passages du côté des Alpes, sur les passages du nord de l'Italie. Il veut réduire la puissance de l'Espagne, puisqu'il conquérera le Roussillon, et puis du côté des Flandres aussi. La seule chose qu'on laissera aux Espagnols, c'est la Franche-Comté, finalement. C'est Louis XIV qui la récupérera. Mais la France est prise en tenaille des deux côtés par ce bloc. Donc l'ennemi numéro un, c'est l'Espagne, et il est contre l'Espagne. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il fait aussi des alliances avec l'Angleterre, parce que c'est aussi la politique d'Henri IV. Bien que Richelieu soit très catholique, il pardonne assez le protestantisme anglais. Mais en même temps, les Anglais ne lui rendent pas, puisque les Anglais vont défendre les protestants, notamment à La Rochelle, avec une petite anecdote qui, elle, est d'ordre sentimental. C'est l'épisode de Buckingham et d'Anne d'Autriche. Donc la femme de Louis XIII, ça ne va pas simplifier les choses. Malgré cela, Richelieu est assez à l'aise, bien qu'il soit toujours à franc renversé, en s'appuyant sur les Anglais pour la politique étrangère et contre les Anglais pour la politique intérieure. Enfin, l'ennemi numéro un, c'est quand même l'Espagne.
Le règne de Louis XIII est marqué par l'agitation donc récurrente des princes, comme on l'a dit tout à l'heure. Tout ça s'accompagne de disgrâces, de complots. Richelieu arrive à sauver sa peau à chaque fois, entre autres, donc vous y faisiez allusion lors de la journée des dupes. Pouvez-vous nous en rappeler les grandes lignes ?
C'est un épisode qui se passe autour des années 1630. À ce moment-là, Louis XIII est tombé malade et tout le monde croit qu'il va mourir. Donc les complots se développent énormément, d'autant plus que parmi les princes, il y en a un qui n'est pas négligeable, qui est son frère, qui est Gaston. Le dit Gaston était préféré par sa mère. Et au moment où on considère que Louis XIII va mourir, puisque pendant un mois il a été entre la vie et la mort, Gaston, sans doute appuyé par sa mère, a décidé de prendre le pouvoir et tout le monde complote et se rallie à Gaston contre Louis XIII. Et l'ennemi numéro un, à ce moment-là, c'est Richelieu, parce que tout le monde a compris que Louis XIII sans Richelieu n'est rien et qu'il faudra, si Louis XIII est mort, abattre Richelieu tout de suite. De toute façon, il ne représentera plus rien. Donc les complots se font jour et Louis XIII guérit miraculeusement. Il est à Lyon à ce moment-là, il revient à Paris et sa mère obtient quasiment de lui qu'il chasse Richelieu. Alors c'est une promesse qu'il lui a faite, est-ce qu'il était fatigué, est-ce que c'était à cause de la maladie, enfin personne ne sait. Et quand il arrive à Paris, sa mère le convoque au Luxembourg, donc pas très loin d'ici, puisqu'elle s'est fait construire ce palais pour elle, et elle lui demande d'appliquer sa promesse et de chasser Richelieu. Alors là, Richelieu demandait une de ses qualités. Il est aussi très machiavélique. Ce jour-là, il a senti qu'il fallait qu'il soit là. Il rentre au Luxembourg parce que comme il était un homme aussi qui est très manipulateur, il a les clés de partout, y compris de la résidence privée de Marie de Médicis. Il rentre par une porte dérobée et il surprend la mère et le fils en train de parler de lui. Et il dit, en entrant, « Vous parliez de moi ?» Et là, Marie de Médicis commet une erreur épouvantable, c'est-à-dire qu'elle s'emporte. Il ne faut jamais s'emporter quand en politique, il faut toujours garder son calme. Et Louis XIII devait sans doute hésiter encore, savoir s'il gardait ou s'il ne gardait pas Richelieu. Et devant l'outrance de sa mère, il ne dit rien. Il les renvoie dos à dos et puis ils partent chacun de leur côté. Marie de Médicis a cru qu'il lui avait donné raison. Elle constitue un gouvernement. Et Louis XIII va se rendre à Versailles, puisqu'il avait fait construire une toute petite maison qui n'était pas encore le château. Il adorait parce qu'il était un grand chasseur. Il va à Versailles et à Versailles, il convoque Richelieu et il lui dit « Je vous confirme, et c'est vous le Premier ministre ». Et Richelieu s'apprêtait à partir, croyant qu'il était en disgrâce. Donc ça a été ce qu'on appelait la journée des dupes, parce que tout le monde a été dupé. Marie de Médicis a été dupée et finalement, c'est là où Richelieu devient véritablement le Premier ministre. Et pendant 12 ans, de 1630 à 1642, il va être le roi de l'Europe. Il va faire tout ce qu'il veut. C'est la guerre de 30 ans. Et ça va précéder en quelque sorte le traité de Westphalie qui va, disons, répartir les différents pouvoirs en Europe et Richelieu sera un maître absolu avec, bien sûr, des révoltes.
Avec des révoltes et avec des préférences de temps en temps. Entre autres, le roi a une petite faiblesse pour Saint-Marc. Là encore, le destin de Richelieu paraît compromis.
Oui, enfin, cet épisode est un peu curieux. D'abord parce qu'il y avait deux femmes qui ont précédé Saint-Marc. C'était Madame de Hautefort ou Mademoiselle de Hautefort et Mademoiselle de Lafayette. Alors, Louis XIII, on sait bien qu'il n'était pas très porté sur la gente féminine. Et Richelieu s'est forcé toujours de lui mettre, pardonnez-moi l'expression, entre les pattes des jeunes filles de très bonne famille, qui l'espionnaient énormément, qui transmettaient à sa place certains messages. Et puis, les deux jeunes filles sont disgraciées à leur tour, n'ont pas la réussite. Il y en a une qui rentre dans les ordres, c'est Mademoiselle Lafayette, et l'autre, Mademoiselle de Hautefort, elle a une politique très très personnelle et elle trahit un peu Richelieu. Donc Richelieu pense qu'il vaut mieux choisir un homme. Mais alors là, celui-là est une catastrophe absolue. C'est un petit coureur qui passe la nuit dans les bouges, qui rentre le matin à 8h du matin et qui rejoint le roi, il lui tient tête, et finalement le roi le fera assassiner, parce qu'à cette époque-là, c'était le seul moyen de régler les problèmes.
En 1638, le roi a finalement un héritier.
Oui, parce que le grand drame de l'époque, c'est que, pour des raisons qu'on a essayé d'expliquer psychanalytiquement, physiologiquement, etc., il s'était marié en 1614, et pendant près de 20 ans, plus de 20 ans, il n'y avait pas d'héritier. D'ailleurs, c'est ce que lui reprochait énormément sa mère, en lui disant « Vous feriez mieux de vous occuper de choses sérieuses plutôt que d'aller chasser. » Et on reprochait aussi à Anne d'Autriche de n'avoir pas été très très sérieuse parce qu'elle avait fait deux ou trois fausses couches. Donc, Louis XIV, le futur Louis XIV va naître. Et là, c'est absolument le bonheur absolu puisque ça sera sans doute notre plus grand roi. Et on l'a appelé Dieudonné, puisqu'il n'était pas du tout attendu, et ça a été le miracle absolu, et il aura un frère derrière lui.
Cette naissance s'accompagne, enfin, de victoires, comme vous le rappeliez tout à l'heure, à l'étranger. La fin du règne de Louis XIII paraît très paisible.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est un homme où on peut utiliser ce qualificatif, parce que ça n'a jamais été un homme très heureux. Il y a eu un jour un écrivain célèbre qui a dit... Sa femme a dit n'a même pas été heureux en faisant un enfant. Je ne sais même pas si Louis XIII y profitait de la vie et de l'existence. Il a toujours été un peu, finalement, aigri, malheureux. Et au fond, ce qu'il rassurait chez Richelieu, c'était ce côté sérieux, ecclésiastique, parce que c'était essentiellement un homme de devoir. Il demandait toujours « qu'est-ce que je dois faire ?» Il avait beaucoup souffert de l'assassinat de son père. Il était le contraire de son père au point de vue caractère. Donc, la fin du règne s'est pas mal passée, sauf qu'il y a eu quand même cet assassinat et cette révolte de Saint-Mars et de tout, dont Alfred de Vigny a fait un roman, qui n'a pas simplifié les choses. Et puis, ils sont morts tous les deux, coup sur coup.
Donc, Richelieu s'éteint en 1642, le roi le suit un an après. On a vraiment l'impression que leurs deux destinées sont liées. Vous dites que le binôme Louis XIII-Richelieu a créé l'État français moderne. Pourquoi ?
Bien, à cause de ce système de gouvernance qui permet... Richelieu, c'est tout de même un technocrate. Donc, je pense qu'on ne peut pas gouverner un État si on n'a pas des vraies capacités d'appréciation technique, économique, administrative. Et ça, Richelieu les avait par-dessus tout. Bon, il avait en plus une chose qui est très rare aussi chez les hommes politiques, il avait une vision politique. Il a fait des écrits absolument admirables. Et quand il présentait, il faisait des discours qui sont encore une fois éblouissants. Et donc, avant, c'était un peu, si j'ose dire, improvisé. Enfin, Henri II n'a rien laissé, Henri III encore moins. Henri IV, il a laissé beaucoup de lettres. Il a laissé des discours fabuleux parce que lui-même était très, très intelligent. Mais après, tout ça a été un peu codifié par Sully avec ses économies royales. Tandis que Richelieu, il a vraiment coulé dans le marbre les principes de fonctionnement d'un État. D'ailleurs, je crois que si nous sommes ici, dans une de ses créations, et pas la moindre, ce qui prouve que c'était quelqu'un qui était très très visionnaire, parce qu'il savait que c'était la langue française qui devait asseoir le rayonnement de la France, quand on y pense maintenant avec 4 siècles de différence, on est ébloui, parce que personne n'y avait pensé avant lui, et ça n'a jamais été remplacé. Et quand vous parlez à des gens qui ont une certaine importance, ils vous disent... le jour où la langue française disparaîtra, nous ne serons plus un pays. Donc, on ne peut que lui rendre hommage.
Merci infiniment, Jean Castarède, pour ce nouvel éclairage apporté sur Richelieu et Louis XIII. Je rappelle que votre ouvrage Louis XIII et Richelieu est disponible aux éditions France Empire. Merci, au revoir à tous et à toutes.